La première,
13h-14h,
l'agence tourisme,
Walid et Marianne Périlleux.
RTBF La Première, ravi de vous accueillir en ce samedi. Comme tous les week-ends, entre 13h et 14h le samedi, vous avez rendez-vous avec l'agence tourisme. Comme chaque samedi, nous sommes là avec vous pour vous faire découvrir ces nombreux lieux à visiter en Wallonie. Des lieux étonnants, surprenants, toujours intéressants. Et ces découvertes, on ne les fait pas seules. Non,
on les fait ensemble.
Avec la seule, l'unique, Marianne Périlleux qui est avec nous. Bonjour Marianne.
Bonjour Walid, bonjour à tous.
Comment ça va en ce 14 mars?
Mais bientôt ça va printemps. Très bien. Ah, j'adore le printemps.
Ah bah écoutez.
Et les fleurs de printemps.
Bah ça tombe bien, on va pas en parler aujourd'hui.
Non.
Mais par contre, on va prendre le cap sur les sciences ce samedi. Ce sera le point commun entre tous les lieux dont nous allons parler aujourd'hui, Marianne.
Mais oui, parce que c'est bientôt le printemps des sciences. Le rendez-vous des sciences et des technologies en Wallonie et à Bruxelles qui va se dérouler tout prochainement du 23 au 29 mars. C'est la 25e édition déjà de ce rendez-vous qui propose à tous, qu'on soit élève, enseignant ou simple curieux, de très nombreuses activités découvertes. C'est ce qui nous inspirait, Walid, cette semaine, puisque science et tourisme, eh bien oui, ça va de pair.
Ah oui, la preuve, de nombreux lieux touristiques sont entièrement dédiés aux sciences et aux technologies avec un autre dénominateur commun, c'est qu'ils abordent les sciences de manière concrète et ludique. Ah, ça j'aime bien. Bah, oui. Apprendre en s'amusant, c'est un peu le slogan. C'est ce qui les caractérise toutes et tous. Et puis l'un des lieux, c'est le Sparco à Framerie en province de Hainaut, où nous irons ce samedi, Marianne.
Oui, et nous irons aussi toujours dans le Hainaut à Charleroi pour vous parler de ce qu'il y a à faire et à voir au Centre de Culture Scientifique de l'ULB basé à Couillet. C'est un centre de vulgarisation scientifique accessible à tous les publics et cette motivation de parler à tous les publics, eh bien, c'est une motivation de tous les instants.
Ouais, on voyage en Belgique, hein. On va quitter Charleroi pour vous emmener aussi à Liège, n'est-ce pas?
Sur le site de l'Université du Sertilement, vous pourrez découvrir l'Observatoire du Monde des Plantes, soit 2300 mètres carrés entièrement dédiés aux plantes d'ici et d'ailleurs et surtout d'ailleurs. L'Observatoire du Monde des Plantes propose en effet 4 serres exceptionnelles dédiées aux différents climats qu'on trouve sur la Terre.
Voilà un univers assez magique qu'on découvrira avec votre reportage de la semaine. Marianne, ce sera dans la seconde partie de cette émission. Nous irons aussi à Namur pour évoquer le pavillon, un lieu dédié aux sciences numériques, mais aussi à l'art. L'art, justement, étant l'une des nombreuses portes d'entrée pour appréhender les sciences. Donc on va apprendre en s'amusant. Mm-hmm. Aujourd'hui, on va découvrir la Belgique à travers justement ces sciences. Bienvenue à tous dans l'agence Tourisme. C'est parti!
Imaginez une destination où tout est tout près de tout. Visite Wallonia, tout pour s'évader.
L'agence Tourisme sur la Première.
On prend une heure pour découvrir, une heure pour se détendre, une heure pour apprendre aussi. Le tourisme scientifique en Wallonie, c'est donc le thème de l'agence tourisme en ce week-end entre 13h et 14h. Et pour vous en parler d'ici 14h, nous accueillons deux invités en studio. Il y a tout d'abord Chris Visseroy, directrice générale du Sparco à Framerie. Bonjour à vous Chris.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très.
Voilà, d'abord une petite question sur la localisation du Sparco. C'est implanté sur un lieu chargé d'histoire, c'est vrai?
Oui, c'est un ancien site minier qui a été revalidé et qui aujourd'hui accueille effectivement 17 000 m² de sciences et de technologies.
Voilà, c'est un ancien charbonnage qui était fermé en 1960. Voilà, magnifique endroit, le Sparco qui a remplacé le premier nom du lieu qui était le Pass, c'est ça?
Oui.
Ouais. Alors on peut en dire un peu plus, le Pass qui a été créé en 2000 avec des fonds européens et avec l'aide de la région Wallonne aussi. C'est bien ça, et le Pass qui est devenu donc Sparco, ça c'est en 2021.
Oui, entre-temps, il y avait des grandes ambitions au moment de l'ouverture du Pass, avec beaucoup aussi d'énergie déployée, sauf que parfois ça a été un peu mal estimé, comme dans de nombreux projets, mais on s'est retrouvé très rapidement avec un problème de compréhension de c'est quoi le Pass, parce que parc d'aventure scientifique, c'est un truc assez bizarre entre le musée et un parc d'attractions, pas tout à fait, et donc on n'arrivait pas vraiment à expliquer à nos publics ce qu'on allait y faire, tout comme dans d'autres lieux scientifiques, on a un peu tous le même problème, puisque c'est quelque chose assez à part. Et puis, évidemment, au fur et à mesure des années, sont arrivées aussi cette appellation Pass. Et en 2020, avec la crise sanitaire, on nous appelait pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire avec les masques, etc. Et donc, on a essayé d'expliquer que c'était pas ça le Pass chez nous.
Ouais.
Et donc, on a voulu changer de nom.
Ouais, si on nous appelle maintenant que pour les masques, ça va être un peu compliqué. Et donc, Sparco, c'est venu assez rapidement. Il y a une signification? Non, pas du tout.
C'est pas venu rapidement. Ah, non. Il a fallu chercher parce que justement, toute cette problématique de trouver un nom qui explique concrètement ce qu'on fait en très bref, c'était très compliqué. Et donc finalement, m'est venu un moment en arpentant nos lieux, ce que j'entendais très souvent, c'était « oh ». Donc le « oh », l'émotion, l'émerveillement, le « oh, mon front est tombé ». Vous voyez tous ces « oh » là ?«
Oh, je ne savais pas ».
Voilà. Ouais. Ah, c'est ça. Ouais. Enfin, voilà, ouais. Il y avait tous ces « oh » et donc je me dis « tiens, c'est étonnant ». Et finalement, qu'est-ce qu'on est? On a un science park, donc un parc scientifique.
Ah,
c'est un
ça.
Lieu où on fait ESPARC, c'est la contraction de Science Park. Donc, à la fois dire ce qu'on fait et à la fois ce qu'on veut générer, parce qu'on veut montrer aussi ce postulat que les sciences, c'est quelque chose de hyper intéressant, hyper
apprendre,
passionnant.
Apprendre en s'amusant, en découvrant, en étonnant, en étant étonné, Marianne.
Voilà. On va développer tout ça, évidemment, pendant l'émission, puisqu'il y a avec nous un deuxième invité. C'est Alexandre He, qui est coordinateur scientifique au Centre de culture scientifique de l'ULB à Charleroi. Bonjour à vous, Alexandre.
Bonjour Marianne, bonjour Walid, bonjour Chris.
Alors, bonjour Alex.
Oui.
C'est votre petit nom. Alors, le CCS, donc le Centre de culture scientifique, c'est un lieu qui est dédié à la vulgarisation scientifique. Alors, ce lieu, il a aussi une histoire.
Oui, tout à fait. Donc, nous, on est implanté à Couillet, donc dans le sud de Charleroi, sur le site de Parenville. On y est depuis 30 ans. En fait, il y a là un domaine de 20 hectares avec un petit château qui a été construit par Basile Parent, qui est une personnalité locale, qui a revendu son domaine à Ernest Solvay, qui est un grand industriel qu'on connaît bien pour son procédé qui a permis de développer la production notamment de soude, dans toute l'industrie de la région. Et au début des années 90, l'usine Solvay a fermé et la famille Solvay a décidé de donner le lieu à l'Université libre de Bruxelles pour y faire un lieu de découverte des sciences et de sensibilisation. Et donc ça fait plus de 30 ans que le musée y est installé, il y a eu d'autres cours, il y a eu des formations, et maintenant c'est la province Lyonnais qui a un peu repris le flambeau. Mais donc le CCS y existe depuis plus de 30 ans pour diffuser toutes les sciences vers tous les publics.
Allez, le bâtiment est magnifique en plus, voilà, on dirait même une ancienne gare, comme ça.
C'est vrai.
J'aime beaucoup, c'est assez sympa donc à visiter. Bah, c'est avec vous Chris qu'on va démarrer cette exploration au cœur du tourisme scientifique, c'est l'ADN d'ailleurs du Sparco. Qu'est-ce qu'on y trouve aujourd'hui exactement? Parce que le site lui, il est énorme, il faut le dire.
Oui, il est énorme. Donc, il habite aussi des bâtiments phares. Donc, certains sont classés. Donc, on a vraiment essayé de les restaurer. Aujourd'hui, on les entretient avec amour et bienveillance. Et on renouvelle très régulièrement notre offre. Donc, on part sur des thématiques générales de sciences, puisqu'on accueille du public scolaire, mais également des familles. Et on a 13 expositions. On a un cinéma assez exceptionnel, puisqu'il est cubique. Donc, c'est-à-dire qu'on projette sur chacune des faces d'un cube. Et donc, on est comme ça complètement immergé. On a également un parcours acrobatique indoor. On a aussi une grande plaine de jeux, 3000 m² qui est assez agréable durant les beaux jours. Et un jardin dédié à la biodiversité.
Tout ça pour découvrir les sciences, bien entendu. La particularité du lieu en quelques mots.
C'est un savant mix entre de l'architecture, de la science, du verre. Il y a une âme aussi assez particulière dans les lieux. On peut s'y perdre pendant des heures. On a parfois l'impression d'être tout seul.
Mais parce qu'on peut toucher
à tout. Parce que c'est très grand.
On peut toucher à tout aussi. Non
et c'est ça pour le pourquoi on n'est pas un musée, en fait. Comme au CCS, c'est qu'on n'est pas du tout un musée. C'est un endroit là où, ailleurs, on dit aux parents, gardez vos enfants, ne touchez à rien. Nous, c'est lâchez-les, ils touchent à tout. Faites quand même attention qu'il ne se passe rien pour eux. Mais ce qui est surtout de particulier, dans tous nos lieux, c'est qu'en fait on passe une journée en famille. On s'amuse réellement pendant une journée complète où on va échanger, repasser en revue des procédés scientifiques, des formules chimiques, des phénomènes physiques qu'on comprend plus. Nous-mêmes, on l'a un peu oublié. Mais avec les enfants, on peut un peu faire son malin puisqu'il y a des petites explications qui vous disent ceci. Et on fait l'amalgame entre ce qui se passe dans le labo, de ce qui est dans la tête des gens, la science, ça se passe dans des labos, avec le quotidien en fait.
On ressort grandi avec plein de choses qu'on a envie forcément derrière de partager. Le but de tout ça, justement, les objectifs avoués, non avoués, c'est quoi? C'est de repartir avec un bagage, c'est d'être surpris, c'est d'apprendre.
D'abord, c'est de s'amuser avec les sciences, c'est d'avoir un peu passé un bon moment. Nous, ce qu'on essaye de créer en particulier chez Sparco, moi, c'est ce que j'essaye d'implanter dans tout ce que l'on fait, c'est de créer justement cette émotion vers les sciences, de casser cet a priori que les sciences sont un peu, on va dire, boring, pour ne pas dire autre chose. Et surtout, de créer, notre objectif, c'est de créer des vocations scientifiques. Parce qu'il y a une vraie pénurie dans les métiers, ce qu'on appelle les métiers STEM, donc tout ce qui est science, technologie, ingénierie et mathématiques. Et le but, c'est de montrer, par le jeu, par la simplification de ce que l'on voit devant soi, d'expliquer la science et de montrer qu'en fait derrière
il y a plein de métiers. Par exemple,
métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Et c'est ça qui est génial.
Et est-ce qu'il y a des métiers que vous mettez en avant? On parle de science, on parle de brevet par exemple. Est-ce que le métier de breveteur est mis en avant?
Donc on avait tous ces espaces où on s'amusait, on jouait, et je trouvais qu'il y a un espace qui manquait, c'était un lien justement avec les métiers et les vocations scientifiques. Donc l'idée, c'est de montrer aux parents, vous vous êtes amusés, mais est-ce que vous avez imaginé que derrière il y a des métiers? Pareil pour les enfants, est-ce que vous savez tout c'est quoi ces métiers? Et donc on a fait une expo où on montre justement des métiers inconnus, comme par exemple un breveteur. Un breveteur, bah, par exemple, on voit un objet bizarre chez nous, qui est une tongue décapsuleuse, et on se dit, mais c'est quoi cette tongue décapsuleuse? Et donc le but, c'est d'attirer l'attention et d'aller comprendre ce qu'il y a derrière. Et derrière, ben, c'est quelqu'un qui a développé
une
tongue avec un décapsuleur intégré. Et derrière, il y a un métier, c'est le breveteur. Et le breveteur, ben, il doit avoir à la fois une connaissance un peu scientifique pour comprendre c'est quoi le phénomène, comment il fait pour pouvoir intégrer que la personne continue à marcher tout en préservant le décapsuleur. Et il faut une connaissance juridique.
Un endroit que vous connaissez, Alexandre ?
Oui, tout à fait. On connaît bien le Sparco. On travaille ensemble sur certains projets. On a un peu une connaissance de tous les acteurs de la médiation scientifique en Fédération Uni-Bruxelles. On se connaît un petit peu tous.
Chris, le site du Sparco accueille environ 147 000 visiteurs par an, c'est ce que vous m'avez dit, dont près de 30 000 élèves. Mais vous me dites, c'est pas assez, on voudrait plus. Alors comment fait-on pour attirer encore plus de public ?
On a la chance d'avoir des très très grands espaces, donc 17 000 m2, c'est énorme. On a plusieurs étages, on a des extérieurs. Et donc, nous, notre objectif, c'est le scolaire fonctionne très très bien. Ouais. On est très content de pouvoir offrir un outil pédagogique, tout comme dans d'autres lieux, à disposition des professeurs pour pouvoir aborder différentes thématiques et différentes matières. Mais par contre, voilà, on voudrait accueillir encore plus des familles pour pouvoir leur montrer et justement les inspirer. C'est ça tout l'objectif de tout ce que l'on fait dans tous nos lieu d'ailleurs, de sensibilisation des sciences, c'est montrer en quoi les sciences peuvent être inspirantes. Inspirantes tant au quotidien que pour faire face aux enjeux qui sont les enjeux de demain et les enjeux de nos enfants aujourd'hui. Et donc c'est ça l'intérêt, de pouvoir accueillir d'autant plus de familles. Et donc en ça, on se renouvelle, on propose des nouvelles expositions.
Justement, on va en parler, tiens, parce que voilà, ce Science Center, le Sparco, à quelques kilomètres de Mons, organise quand même pas mal d'événements, d'expositions pour attirer là aussi les visiteurs. Moi j'en ai épinglé un, c'est le Phénoménal par exemple. Est-ce qu'on peut en parler ?
Oui, donc cette année 2025, nous avons fêté nos 25 ans et il nous a semblé sympa de refaire une des expos emblématiques, celle par laquelle tout le monde rentre, qui s'appelle Phénoménal, parce que justement les sciences, c'est tellement phénoménal.
Et donc l'expo Phénoménal, c'est une expo qui fait le parallèle entre la science et la vie quotidienne par des exemples simples, c'est ça ?
Exactement. Donc là, par exemple, on va vous montrer les cordes d'une guitare et montrer que c'est les mêmes cordes qu'on utilise dans les études sismologiques pour faire attention à l'évolution ou l'arrivée d'un tremblement de terre.
Ah oui.
Voilà.
D'accord.
On va par exemple montrer que le magnète qui se trouve sur votre frigo, ben c'est le même système qui est utilisé en imagerie médicale. On va vraiment faire le parallèle entre la science au labo,
de ce qu'on voit tous les jours au quotidien, et de ce qu'on en fait aussi ailleurs. Ben voilà, c'est l'occasion pour vous d'y aller, d'embarquer en tout cas pour une journée à jouer, à ressentir, à explorer, à expérimenter les sciences et les technologies en vous amusant, tout simplement.
Mais justement, j'allais le dire, Walid, vous l'avez compris, les raisons de visiter et surtout de s'attarder au Sparco sont nombreuses. Tout est prévu pour qu'on y passe une journée complète, entre 6 et 8 heures, c'est franchement tout à fait possible, même souhaité. Et c'est possible sans vous y ennuyer. Il y a sur place, on le rappelle, 13 expositions, un cinéma, 5 murs 4D, avec des effets 4D, un parcours acrobatique, un jardin de la biodiversité, un espace Eureka. Le site est ouvert toute l'année sauf le samedi. On compte plus ou moins 25 euros pour un adulte, c'est ça, Chris ? 15 euros pour un enfant de 4 à 18 ans.
Y a des 17 euros pour les seniors.
Et 17 euros pour les seniors, c'est important de le signaler. Tarif à moitié prix également les mercredis. C'est bon aussi de le signaler pour la bourse, ça fait du bien. Ça, c'est les mercredis hors congé scolaire. Toutes les infos sur sparco.be.
Voilà, c'est du côté de Frameries, c'est accessible aussi au PMR. Là aussi, on peut le rappeler. Et vous allez découvrir, vous amuser. Et on va continuer à découvrir, à nous amuser en ce samedi sur la RTBF Première. Vous voilà informé justement des choses à faire du côté du Sparco à Frameries. On va se déplacer à présent dans le Hainaut pour s'arrêter au Centre culturel scientifique de l'ULB à Charleroi. Et on vous en parle tout de suite.
L'agence Tourisme sur la Première.
Découvrir les sciences, c'est expérimenter, c'est apprendre, mais c'est aussi s'éclater, c'est aussi s'amuser. Et c'est pas vous, Alexandre, et bien sûr, qui allez me contredire. Vous êtes avec nous pour parler du Centre de culture scientifique de l'ULB, qui s'est installé à Parenville, donc près de Charleroi. Et depuis 1993, le site est dédié à la vulgarisation scientifique. Mais dites-en plus, parce que la vulgarisation scientifique, comme ça peut faire peur tout de suite. Mais qu'est-ce que vous proposez aux personnes qui viennent chez vous ?
Mais justement, c'est leur apprendre à ne plus avoir peur des sciences et pouvoir appréhender n'importe quel savoir, n'importe quel apprentissage par la curiosité, par la manipulation, par l'expérience et par l'amusement. Donc, ça fait 30 ans que le CCS développe toute une série d'activités pour diffuser toute une série de disciplines scientifiques. On est vraiment très généraliste dans le choix des thématiques. Et donc, on va proposer notamment des expositions de vulgarisation scientifique, mais aussi des animations, des ateliers qui vont se faire par petits groupes pour comprendre une thématique en particulier, toujours par l'expérimentation, en s'amusant et en essayant de construire le raisonnement de la méthodologie scientifique.
Par exemple, si on doit prendre un exemple, les illusions d'optique. Ça, c'est par l'expérimentation. Donc, on vient avec sa famille.
C'est une expo, là, d'ailleurs, pour le moment en cours.
Ouais. Tout à fait. Donc, en ce moment, on a une exposition sur les illusions d'optique qui est accessible ici jusqu'au 28 août. Et c'est une expo qui va prendre comme porte d'entrée les illusions d'optique, mais qui va même déborder sur les illusions des autres sens. Donc, on connaît les cinq sens principaux. En fait, on en a d'autres. Et on peut aller vraiment prendre cette exposition comme porte d'entrée vers ce qu'est une illusion, c'est-à-dire que notre perception du réel, elle est tronquée parce que notre cerveau interprète tous les signaux qui sont donnés par nos sens. Et les illusions, c'est jouer avec cette perception-là pour essayer de voir, tiens, là où est-ce que le cerveau réinterprète les signaux qu'il a perçus pour construire une réalité qui en fait est virtuelle.
Donc c'est une illusion cérébrale alors ça ?
Alors effectivement, on peut distinguer les différentes illusions, notamment si on parle d'illusion d'optique, eh bien comme notre cerveau va appréhender la réalité d'abord par nos yeux, au niveau de la vue, eh bien la lumière rentre dans nos yeux pour créer un stimulus, un signal électrique qui va par le nerf optique rentrer dans notre cerveau. Alors notre œil reçoit un signal, on peut jouer avec ce signal. C'est par exemple l'exemple de la persistance rétinienne. L'expérience consiste à regarder fixement une image pendant 30 secondes. Cette image...
Walid, je propose que vous le fassiez.
Je suis...
30 secondes.
Alors, pendant 30 secondes, on fixe une image en évitant les micro-mouvements des yeux, donc il faut vraiment fixer un point. Eh bien, pendant ce temps-là, au bout des 30 secondes, les récepteurs qui se trouvent sur la rétine de l'œil vont s'habituer au stimulus de cette image et vont un petit peu être ralentis, vont s'endormir. Brusquement, au bout des 30 secondes, on regarde une page blanche. L'œil reçoit alors un signal différent qui est un signal homogène. Mais comme les récepteurs correspondant à l'image précédente mettent un délai avant de réagir, le cerveau réinterprète une image qui n'existe pas.
Ben, c'est exactement ce qui vient de se passer. C'est fou, c'est vraiment... Non mais vraiment, vous regardez une image, pendant 30 secondes, vous regardez une feuille blanche et puis vous avez... c'est un peu troublant même, c'est assez particulier, c'est assez intéressant. Il y a pas mal d'événements, pas mal de stages aussi, d'ateliers intergénérationnels, c'est ce que vous proposez ?
Oui, tout à fait. Donc, comme je l'ai dit, on essaie de toucher vraiment tous les publics, le scolaire, le familial, les seniors, vraiment tous les publics. Et on a développé notamment les ateliers intergénérationnels où les parents, les enfants, les grands-parents, les petits-enfants, les oncles, les parrains, les marraines, vous venez passer 2 heures au CCS pour vous amuser sur une thématique.
Ouais, c'est aussi interactif, comme au Sparco, j'imagine
Toujours. Ouais. On va toujours privilégier la manipulation, l'expérimentation et l'amusement.
Ah ben ça c'est bien, ça, je signe dès demain même.
Alors cette exposition, donc Illusion, vous n'allez pas y croire, je trouve que c'est un très très beau titre d'exposition, est à découvrir jusqu'au 28 août. Alors plus proche de nous, c'est le Printemps des Sciences, on en parlait en début d'émission, c'est du 23 au 29 mars prochain. Le thème cette année, c'est l'esprit en éveil, 25 ans de culture scientifique. Donc c'est le thème de cette année. Vous y participez, Alexandre. Alors de quelle manière? Qu'est-ce que vous avez prévu? Qu'est-ce qu'on pourra faire de particulier chez vous?
Alors, le Printemps des Sciences, il faut savoir que donc, depuis 25 ans, ce sont toutes les universités qui ouvrent leurs portes au grand public, aux écoles et aux familles pour... proposer des activités où le savoir va quitter la sphère de la communauté scientifique pour aller vraiment à la rencontre de la population.
Oui.
Et donc, toute une série d'activités sont organisées dans les universités. Et nous, au CCS à Parentville, on est une forme d'extension de l'ULB où on fait ça toute l'année, en fait. Mm-hmm. Donc, on va simplement offrir la gratuité à nos activités régulières. Et donc, une classe pourra venir visiter l'exposition, faire un atelier lié à l'exposition en ce moment, toute la semaine. Et le mercredi après-midi, ce sera pour les familles.
Ouais, ça peut créer des vocations aussi, de futurs chercheurs, de futurs scientifiques. Est-ce que vous avez été déjà surpris par des enfants, des parents qui vous ont ouvert les yeux sur des choses que vous, les chercheurs, vous n'aviez peut-être pas vues parce que vous êtes né dans le guidon. On parlait des yeux tout à l'heure, mais là, pour le coup, est-ce que parfois vous vous dites « Ah tiens, c'est vrai qu'on n'avait pas vu comme ça ?»
Alors, c'est toujours intéressant d'avoir un dialogue parce que notre mission, c'est de faire le lien entre la communauté scientifique et la population. Donc, on doit à la fois pouvoir parler le langage de tous les jours pour trouver des références au quotidien, comme on le disait juste avant, et une narration qui est intéressante, qui est marrante, qui est enrichissante, qui est vraiment amusante aussi. Et en même temps, aller parler aux scientifiques pour connaître exactement, avec rigueur, quel est leur savoir, qu'est-ce qu'on peut transmettre et de quelle manière. Et donc, on va vraiment faire la jonction entre les deux. Et donc, principalement, notre travail, ça va être d'aller rencontrer les profs et les chercheurs, de comprendre la complexité de leur savoir et puis d'en faire quelque chose de marrant à développer.
Un pont, quoi.
Oui, tout à fait. Voilà. On fait le pont.
Est-ce que vous pensez du coup que la culture scientifique aide vraiment, enfin nous aide à voir la vie autrement ou plus facilement ?
Ah, fondamentalement. Moi, on travaille avec des personnes qui sont merveilleuses et talentueuses pour éveiller la curiosité du public et amener les gens à se poser des questions et à aller prendre un peu de recul avec un peu d'humilité sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce que je crois,
oui,
qu'est-ce qui est mon opinion
aussi.
Et développer l'esprit critique,
oui.
C'est la première mission de nos structures.
C'est un enjeu majeur aujourd'hui.
Et donc vous définissez le centre justement de culture scientifique à la fois comme un lieu culturel et touristique.
Eh oui, tout à fait. Donc on est un petit peu, on l'a dit tout à l'heure, on est un petit peu à cheval. On a une mission qui a un peu de l'éducation, mais qui est aussi un peu de la culture, qui est aussi un peu touristique. Et c'est ça que, voilà, il faut pouvoir un petit peu faire notre place dans le paysage. Mais effectivement, on est pas vraiment amusé parce qu'on n'a pas de collection. On est un centre où on va essayer d'éveiller, essayer d'amuser, essayer de faire apprendre, mais sans jamais contraindre.
Vous participez également au Printemps des sciences, vous Chris, avec le Sparco ?
Tout à fait, ça fait 5 ans maintenant qu'on accueille l'édition avec le MUMONS qui installe avec un pléthore de petites structures qui font de l'animation comme ce que
on en fait partie.
C'est nous, avec, effectivement, on les accueille. Et donc je crois qu'il y a une trentaine de stands qui sont présents et donc avec des activités qui sont faites par des étudiants aussi qui se trouvent eux-mêmes en cursus. Et donc eux-mêmes, avec leurs propres outils, vont expliquer et vulgariser certaines choses. Donc ça c'est toujours extrêmement intéressant, parce que du coup, on rejoint la question que posait Walid, c'est qu'effectivement, parfois les enfants vont expliquer ça d'une toute autre manière que ce que nous, on aurait imaginé, ou avec les techniques actuelles.
Et donc ça, c'est le plus intéressant. Oui, donc on peut vulgariser encore mieux, plus simplifier et mieux toucher tous les visiteurs, visiteuses qui viennent justement dans ces centres et au Sparco notamment.
Alors, une toute dernière question.
Etc.
Oui, pardon. Une toute dernière question pour vous, Alexandre, quand même, il faut le signaler, c'est que le Centre de Culture Scientifique est à l'aube de grands changements, puisque voilà, vous l'avez signalé, vous dépendez maintenant de la province de Hainaut. Il y a un projet de déménagement vers le centre-ville de Charleroi envisagé. On peut en dire un petit peu plus ou...
Tout à fait. Et donc, il faut savoir qu'à Charleroi, il y a un campus universitaire qui est un campus hybride. Donc, on a des enseignements de l'UMONS, de l'ULB, mais aussi des enseignements provinciaux, donc de la province du Hainaut. Et on a constitué le campus U Charleroi comme nouveau campus universitaire. Eh bien, le destin, donc l'avenir du CCS, c'est de devenir le centre de diffusion des sciences de ce nouveau campus et de s'implanter en centre-ville pour diffuser les savoirs de toutes les structures qui composent ce campus.
Voilà, on ne sait pas quand, on ne sait pas où, mais c'est pour bientôt.
On va garder un peu le suspense, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit cette année, ce sera probablement dans un an ou deux.
Voilà, donc c'est pas pour tout de suite. Et en attendant justement ce déménagement, le Centre de Culture Scientifique continue de fonctionner normalement, dont toutes les activités sont prévues pour 2026. Le Printemps des sciences, c'est bientôt. Je rajoute que les premiers et troisièmes dimanches du mois, le site est également ouvert et que vous proposez ces jours-là, donc en plus des autres jours du lundi au vendredi, des activités particulières, des visites libres, des visites guidées, etc. Prix d'entrée 6 euros. Toutes les infos sur votre site, donc ccs.site.ulb.be.
Et oui, et on va continuer à parler science, tiens, justement, cet après-midi sur la première. On va aller à Liège, à l'Observatoire du Monde des Plantes, rien que ça. Mais avant cela, un peu de musique avec une chanteuse, auteure, compositrice belgo-portugaise. Elle s'appelle Salomé dos Santos. Son projet, c'est Blue Samu. Elle nous offre depuis 2015 une musique, mais qui va vous transporter. Et c'est l'occasion pour nous de voyager aussi en musique avec Breakfast. Voici Blue Samu sur la première. Elle sera en concert à Bruxelles le 21 mars, donc dans une semaine, ce sera au Botanique. Soyez présents, allez applaudir les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'était Blue Samu avec ce magnifique morceau Breakfast. Et on va continuer justement à parler de tourisme scientifique aujourd'hui dans l'agence Tourisme. Et c'est à Liège que ça se passe maintenant pour découvrir l'Observatoire du Monde des Plantes.
L'agence Tourisme sur la première.
Place au reportage de la semaine dans l'agence tourisme avec vous Marianne. On a pas mal parlé de la province de Hainaut avec nos invités en studio, mais il y a aussi des sites dédiés aux sciences en province de Liège.
Évidemment, et c'est dans un lieu un petit peu moins connu que je vous emmène aujourd'hui, c'est l'Observatoire du Monde des Plantes, un site qui se trouve sur le campus du Sartilement, donc sur les hauteurs de Liège. C'est un site qui expose les collections botaniques de l'université et qui se présente sous la forme de 4 serres thématiques remplies de plantes de toutes sortes. On parle quand même ici de quelques 3000 espèces et variétés de plantes différentes. C'est donc une belle collection dont le but est de donner un maximum d'informations sur l'extraordinaire diversité du monde végétal et au sens large.
Et qu'est-ce qu'on y trouve alors, du coup?
Ben, plein de choses. Ces quatre serres correspondent en réalité à quatre types de climats différents, ce qui vous permet en quelque sorte eh bien, de faire un véritable tour du monde en peu de temps grâce aux plantes.
Ah, c'est chouette, hein.
C'est tout à fait chouette. Le voyage commence dans une première serre. C'est la serre tempérée horticole. C'est son petit nom. Je vous y emmène avec mon guide, Sophie Pitours. Sophie qui est biologiste de formation et chargée de projet dans cet observatoire mais créé il y a 30 ans déjà.
Dans cette serre-ci, on présente trois thèmes différents. Donc, à savoir que c'est la première serre qui initie le parcours didactique. Et donc, il y a un thème sur l'évolution des plantes, il y a un thème sur les plantes utiles et médicinales, et il y a un thème plantes carnivores.
C'est quand même assez impressionnant parce que les spécimens qui sont devant moi, ils sont très, très grands.
Oui, les serres sont hautes. Et encore là, on vient déjà de tailler certains arbres. Ils étaient encore plus grands avant. Mais oui, c'est ça la particularité du site. C'est grand, c'est 2300 m² de serre et elles sont hautes.
Alors, qu'est-ce qu'on peut voir déjà devant moi? Alors, vous êtes la spécialiste, moi je suis la néophyte, je n'y connais pas grand-chose à vrai dire en plantes. Les spécimens devant nous, ils sont impressionnants, ils sont hauts, on l'a dit. Comment s'appellent-ils? C'est quoi leur petit nom?
Donc, ce qu'on voit ici devant, c'est un philodendron. Donc, c'est une plante grimpante qu'on va retrouver plutôt dans les zones tropicales à subtropicales. Et juste à gauche, la très grande plante qu'on voit, c'est une fougère arborescente. Ici, c'est une espèce de Nouvelle-Zélande.
Plus loin, on dirait une espèce de palmier, mais c'est peut-être pas un palmier.
Ça ressemble très fort, mais ici, c'est un cycas. Donc, c'est une plante qui existe sur Terre depuis assez longtemps. C'est une plante, voilà, on ne dirait pas, mais qui est plus proche des conifères que des plantes à fleurs.
Sur la gauche, je peux m'avancer par là? Ok, apparemment, c'est possible. On dirait un bananier, mais c'est peut-être pas un bananier.
C'est juste, c'est un bananier.
Ah!
Oui, parce qu'une des thématiques de cette serre, c'est présenter au public différents végétaux qui sont utiles à l'homme, et ici donc, notamment au point de vue alimentaire. Et donc les bananes, c'est une plante de grande culture qui sont très consommées dans le monde et donc très, très cultivées.
Bien sûr. Alors vous m'avez parlé de café tout à l'heure.
Oui, voilà. Alors il est juste ici à côté de nous. Donc c'est un bel individu qui fait plus ou moins 5-6 mètres de haut quand on ne le taille pas régulièrement. Et alors il porte chaque année, donc là on peut voir qu'il est plein de fruits mais ils ne sont pas encore mûrs, donc ça reste pour le moment assez discret. Quand c'est mûr, les fruits sont rouges, pour le moment ils sont toujours verts.
Et donc ça veut dire que vous pouvez récolter le café, le torréfier, il est même possible peut-être de le déguster?
Oui, voilà, on a déjà fait ça deux fois. On avait appelé cet événement le véritable café liégeois, puisqu'il a poussé ici, qu'on l'a récolté ici dans les serres, et alors on l'a fait torréfier à Liège, dans une boutique qui s'appelle la Caféière.
Oui. Quelle est la pièce majeure de cette serre?
Ben voilà, ici, pour le côté un peu emblématique, justement, je parlerai du caféier.
Est-ce qu'il y a des plantes un peu particulières, carnivores ou très anciennes? Ah, mais si, voilà, il suffit de se retourner et on va s'en éloigner quand même un petit peu. On ne va pas s'approcher trop près. Hein.
Voilà, c'est aussi une des thématiques qu'on développe ici dans la serre et qui intéresse beaucoup les enfants, qui en effraie certains aussi.
Alors, carnivore, ça veut dire, expliquez-moi, qu'est-ce qui peut se passer dans le pire des cas?
Pour nous, rien. Mais il ne faut pas être un moustique ou une mouche.
D'accord, parce que...
Parce qu'elles vont, donc les petits insectes vont se faire piéger. Au niveau des feuilles des plantes carnivores, il y a trois types de pièges qui existent ici dans la serre. On a le piège à urne où l'insecte tombe dans une feuille qui est transformée en genre de sac contenant du liquide, donc l'insecte se noie. On a un piège collant, l'insecte se pose sur la feuille, reste collé et alors il va être digéré petit à petit. Et puis il y a le piège à charnière qui là, c'est plus la forme d'une bouche au bout de la feuille, ça c'est la plus connue. Bon, ça reste une feuille de plante, mais l'insecte va être capturé à l'intérieur au niveau d'un piège actif qui va se refermer sur la proie.
Oui, plus de peur que de mal pour vous, Marine, si j'ai bien compris. Vous n'êtes pas un insecte, donc vous êtes revenu.
Non, je ne suis pas un insecte. Vous en doutiez,
Pas du tout.
Je pose la question. Non, elles sont pas très impressionnantes, à vrai dire, ces plantes carnivores. En revanche, la serre tropicale, c'est la troisième serre du parcours permanent. Eh bien, elle l'est beaucoup plus. Elle est très grande d'abord, mais surtout, vous y plongez dans une nature qui est dense, qui est luxuriante. C'est une découverte qui tient parfois de l'expérience, parce qu'il faut de temps en temps, eh bien, baisser la tête pour ne pas cogner quelques grosses branches. Mais il y fait surtout très, très chaud et très, très humide. Alors, autant dire que le contraste avec la serre qui lui succède est assez surprenant. Écoutez plutôt.
Faut pousser fort. Et alors là, changement de climat, c'est pas mal. On quitte 20 degrés en franchissant la porte et on arrive dans...
C'est la serre désertique. Donc ici, ce qui frappe surtout, c'est la différence au niveau du taux d'humidité. Oui. Parce que la serre tropicale, le but, c'est essayer que ce soit très humide pour représenter un peu ce qui se passe dans la nature. C'est-à-dire que le taux d'humidité doit être supérieur à 80%. Oui. Ici, dans la serre désertique, c'est le contraire. Bah, il faut que ce soit le plus sec possible pour représenter ce qui se passe réellement dans les biomes désertiques. C'est-à-dire c'est très aride.
Très aride, peu d'eau et pourtant, une végétation luxuriante. C'est en tout cas ma première impression en arrivant dans cette serre.
Effectivement, c'est vraiment une très belle serre. Alors ici, on s'est permis d'introduire un biais, puisque nous, ce qu'on voulait montrer, c'était le plus possible de plantes qui vivent et se développent sous les climats désertiques.
Donc ça veut dire que c'est une image qu'on n'aura jamais en vrai dans la nature.
Exactement. Dans les déserts, on n'a pas une si grande densité et diversité de plantes sur un petit endroit.
Quelle est la particularité de toutes ces plantes, dont certaines sont également très très hautes ?
Oui, cette serre-ci, elle est haute aussi. Donc il y a des individus qui sont vieux, donc qu'on a laissé pousser, qu'on taille quand même de temps en temps. Mais sinon, dans cette serre-ci, déjà elle est riche au niveau de la collection, puisqu'on a plus ou moins 600 espèces et sous-espèces représentées dans cette serre-ci, donc c'est une très belle collection. Et alors, il y a trois zones principales représentées. Il y a les zones sèches de Madagascar, juste ici devant nous. Et un petit peu plus loin, donc, on va pouvoir voir des déserts africains. Et tout au bout de la serre, c'est plutôt désert américain où on a mélangé Amérique du Sud, Amérique du Nord.
Alors, quelque chose ici devant m'intrigue complètement. J'ai jamais vu une plante comme ça. On dirait presque une sculpture.
Donc ça, c'est très spécial. C'est assez recherché des collectionneurs. Ça s'appelle une crustation. On pense que c'est causé... certaines crustations, en tout cas, sont causées par des petits virus qui rentrent dans la plante et qui font qu'elle va créer cette structure un peu bizarre. On appelle ça aussi les monstruosités. Et donc la plante change complètement d'axe de symétrie, ça devient vraiment anarchique, et c'est ce qu'on va appeler donc les crustations. Et certaines espèces vont en faire plus que d'autres, et c'est assez recherché des collectionneurs.
C'est superbe, hein ?
Oui, c'est beau, je comprends les collectionneurs les recherchent.
Alors les personnes qui aiment bien la couleur verte, il faut venir ici. J'ai jamais vu autant de nuances de vert différentes.
C'est vrai que cette serre-ci, on peut le souligner effectivement. Alors c'est surtout dû au fait qu'il y a différentes plantes qui vont avoir une cire qui recouvre l'épiderme pour se protéger du soleil, puisqu'ici, ce sont des plantes qui vivent dans les déserts, où donc les rayons lumineux sont intenses. Donc il y a une cire en fait, qui va recouvrir l'épiderme pour protéger des UV. D'autres plantes vont avoir un épiderme recouvert de tout petits poils qui peuvent être très discrets et donc donner cette impression parfois de vert bleuté.
Absolument.
Et c'est ça qui va faire ces différentes nuances.
Voilà, je me retourne. Très belle serre, très belle découverte de cette serre désertique. Merci Sophie.
Merci à vous.
Une belle découverte, hein. Dites-moi, Mariana, cet observatoire du monde des plantes.
Oui, et on ne peut évidemment pas tout dire en quelques minutes, comme par exemple eh bien, le fait que certaines de ces plantes eh bien, sont données à l'université par de véritables passionnés. C'est le cas d'un cactus du désert américain vieux de 90 ans qui a été légué à l'observatoire du monde des plantes par un collectionneur de la région liégeoise passionné de botanique. Il s'appelle Jean Douanet. Vous découvrirez ce cactus magnifique dans la serre désertique. Et cette serre désertique, c'est vraiment mon petit coup de cœur parmi les quatre serres que j'ai visitées. Conclusion, ou peut-être morale de l'histoire, c'est que la science aussi, s'il fallait vous en convaincre, rime vraiment avec passion.
Un lieu que vous connaissez tous les deux
Moi, j'y suis jamais allé, mais ça donne envie.
Ah, merci.
On y est, ah non, on y était. Hein,
on y était, Chris, tout à fait. Hein,
on y était, hein, ça donne effectivement envie.
On est même chaud.
Un lieu qui participe lui aussi au printemps.
Mais oui, bien sûr, comme les deux autres lieux dont nous avons parlé depuis le début de l'émission. Oui, l'Observatoire du Monde des Plantes participe au Printemps des Sciences. Le lieu sera gratuit toute la semaine. Voilà, un lieu qui attire en nombre le public scolaire aussi. C'est fascinant pour les enfants. À signaler qu'il est adapté, aménagé pour les personnes à mobilité réduite. Mm-hmm. Toutes les infos sur le site de l'université/Observatoire du Monde des Plantes.
Et on signale, ou en tout cas on rappelle à nos auditeurs que nous avons parlé dans une précédente émission, entre autres,
c'est vrai,
d'autres lieux scientifiques à Liège. C'était dans l'épisode dédié au tourisme universitaire, oui. Une émission à réécouter, bien entendu, à l'envie, à foison sur RTBF, Ovio. Mais notre aventure au pays du tourisme scientifique en Wallonie n'est pas finie. On part à Namur maintenant pour parler du Pavillon, un lieu d'exposition dédié aux cultures numériques.
La première... L'agence tourisme,
Marianne Périlleux et Walid.
Le pavillon de Namur, c'est le lieu qui nous intéresse à présent. Vous le trouverez sur le site de la citadelle de Namur, à deux pas de l'arrivée du téléphérique. Et pour nous en parler, eh bien c'est sa directrice Charlotte Benedetti que nous avons le plaisir d'avoir avec nous au téléphone. Bonjour Charlotte. Merci de nous recevoir dans ce pavillon. Vous allez nous en parler. Pavillon, on l'a dit, un lieu dédié aux cultures numériques. Mais encore, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on y trouve?
Alors, c'est vrai qu'on parle de cultures numériques, mais on parle surtout de connexion entre les disciplines et plus particulièrement entre l'art, la science et la technologie. Mmh. Donc c'est un lieu qui explore l'impact de la technologie sur notre société, mais plus que ça encore, c'est un lieu où on propose une entrée à partir de l'art plutôt, vers justement des thématiques scientifiques et des thématiques technologiques. Et donc ce qui nous anime, c'est vraiment de faire rencontrer toutes ces disciplines.
Voilà, c'est surtout un lieu d'exposition, de rencontre, vous l'avez dit. L'expo en cours concerne un artiste français installé à Bruxelles. Cet artiste, c'est Vivien Roubaud. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans son travail?
Alors, Vivien Roubaud, en effet, il présente un solo. Donc, c'est lui l'artiste qui va qui envahit déjà tout le pavillon. Mmh. Et il est là jusqu'au 10 mai. Et en fait, ce qui nous intéresse dans son travail, c'est que Vivien, justement, c'est un artiste qui adore explorer, démonter les machines. Donc, lui, justement, la technique, c'est son dada. Il est continuellement en train de désosser, de montrer, en fait, ce qui se cache sous le capot de ce qui nous entoure au niveau technique. Et en fait, derrière ces questions techniques, eh bien, ça nous permet d'aborder plein d'enjeux, les enjeux sociétaux comme notre rapport à la production, à l'efficacité, à la performance qu'on met derrière nos machines, mais aussi des enjeux de science parce qu'il y a aussi des questions de transformation de la matière, des questions chimiques, des questions physiques et même des questions du vivant parce qu'il y a aussi dans son travail une obsession aussi de ralentir le temps et de donner à voir ce que d'habitude on n'a peut-être pas le temps de voir, comme par exemple une samare qui tombe d'un arbre. Eh bien, là, Vivien va la faire flotter indéfiniment sous nos yeux. Ouais. Voilà le type d'installation.
Vous avez d'autres exemples comme ça, parce que ça parle forcément aux auditeurs, auditrices, hein, de son travail, des choses qu'il utilise pour créer ces installations, parce qu'il y en a 11 au total d'installations.
Oui, bien sûr. Alors, il y a aussi une installation plus technique. Là, c'est intéressant, parce que ça parle aussi de notre rapport, je le disais, à la consommation, à la productivité. Vivien s'est intéressé aux imprimantes de bureau, qui sont des imprimantes que tout le monde connaît, qu'on a souvent achetées, et qui, malheureusement, quand on doit remplacer les cartouches, eh bien, les cartouches coûtent souvent plus cher que la machine elle-même. Et bien souvent, ces machines finissent au rebut parce que, en fait, on la change, elle coûte très peu cher. Et donc, ce qui intéresse Vivien là-dedans, c'est qu'il a démonté ces machines. Il en a créé des sortes de créatures rampantes qui se mettent à écrire de manière complètement folle et qui redessinent dans l'espace des textes qu'il va leur donner et qui sont évidemment des textes inspirés. Alors, il y a Gilles Deleuze, par exemple, et La dépense inutile. Donc, évidemment, des textes qui parlent aussi de notre rapport à l'efficacité, à la performance. Donc, ça, c'est une installation plus technique. Mais quand je parlais de science, eh bien, il y a par exemple une fascination pour Vivien autour de la transformation de la matière du sucre. Et donc, il s'est très tôt intéressé à la machine à barbe à papa. Donc, il a transformé une tondeuse à gazon en machine à produire de la barbe à papa, parce que la transformation du sucre est quelque chose qui, en fait, m'éblouit. Et j'entendais tout à l'heure que vous parliez de la science et de la passion qu'on peut, évidemment, avoir à découvrir cette science dans tous ses aspects. Et dans le travail de Vivien, il y a cet émerveillement presque de l'ordre de l'enfance, en fait, pour tout ce qui nous entoure et les curiosités qui nous entourent, et le côté de l'inventivité aussi.
Il y a de la poésie, hein, puisqu'il détourne ces objets, il leur donne un sens très, très poétique par moment. Charlotte, vous participez également au Printemps des sciences. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu avec votre jeune équipe de médiation pour le Printemps des sciences, puisqu'on rappelle qu'il y a des visites guidées, notamment organisées par votre équipe au pavillon, ces jeunes qui sont eux-mêmes formés d'ailleurs aux expositions qui sont en cours ou aux sciences, aux sujets dont vous parlez. Qu'est-ce que vous avez prévu?
Alors, on a effectivement des visites guidées avec nos équipes de médiateurs, médiatrices. Et puis, on a un atelier qui sera donné avec l'artiste. Là, c'est pour le public scolaire. Et donc, c'est jeudi. Toutes les inscriptions et les informations se trouvent sur notre site. Et dans cet atelier qui sera donné plusieurs fois par l'artiste, ce qui va être évidemment génial à découvrir, c'est que lui va montrer justement comment il travaille, tous ses processus de création, et il va dévoiler aux enfants la manière dont justement la magie opère dans ses œuvres, ou au contraire plutôt les dessous de la technique et de la science qui sont à l'œuvre dans différentes installations, comme par exemple on a un nuage qui est formé dans l'exposition à partir de cannes à pêche qui crée un champ électrique et qui permet à de la vapeur qui vient d'une cigarette électronique de se condenser et de se stabiliser dans l'air en étant ionisé. Donc vous entendez
bien. Il faut aller voir pour comprendre. Il faut aller voir pour comprendre. Mais ça donne envie justement. Et c'est ça qui est beau avec les sciences, c'est que souvent on a beau expliquer, vaut mieux vivre l'expérience soi-même. Et donc c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à aller pousser les portes de ces musées, de ces lieux où on parle de science aujourd'hui, notamment avec Charlotte.
Et on rappelle le titre de l'exposition. Charlotte Vivien Roubaud, Temps suspendu, très beau titre aussi, à découvrir au pavillon. Alors on rappelle que le pavillon, c'est quand même l'ancien pavillon de l'exposition universelle de Milan, qu'il est maintenant à Namur, et que cette expo donc est jusqu'au 10 mai prochain. Et la journée dont vous parlez, je pense, avec l'artiste, c'est le 26 mars. Toutes les expos sur pavillon.be.
Merci Charlotte.
Merci à vous.
Merci Charlotte.
Merci à vous. Bah voilà déjà l'émission qui se termine. On a donné envie.
J'espère qu'on a donné envie parce que c'est un sujet qui n'est pas spécialement.
Mais c'est une porte d'entrée comme évident, à chaque fois pour aller découvrir. Une toute dernière question, tiens, nos deux invités, Chris de Frameri et Alexandre de Charleroi pour conclure. Deux mots pour convaincre nos auditeurs auditrices de découvrir ces sites, ces musées, ces lieux, ces événements dédiés aux sciences. Deux mots, Alex.
En deux mots.
Oui, deux mots. Ouais, c'est...
Venez vraiment.
Venez vraiment.
Excellent, excellent.
C'est pas mal, c'est un bon
slogan. C'est pas mal. Ouais.
Et vous, Chris?
Éclatez-vous avec les sciences.
Éclatez-vous avec les sciences. Ben voilà, en tout cas, n'hésitez pas à consulter l'article qui accompagne cette émission via notre site web et l'appli RTBF Actu, une émission que vous pouvez aussi réécouter sur RTBF Ovio. Merci Marianne.
Avec plaisir.
On se donne rendez-vous la semaine prochaine.
Absolument.
Même endroit, même heure, samedi 13h-14h pour un nouveau rendez-vous de l'agence Tourisme. Autre rendez-vous hebdomadaire, vous le savez, vous aurez rendez-vous avec Cynthia Isarali et Kiosque. Ils arrivent et toute la bande à 14h. Avant cela, les infos. Et avant les infos, un peu de musique pour vous accompagner ce samedi. Très bon samedi à l'écoute d'RTBF La Première, pour vous emmener jusqu'à 14h. Voici Pete et nos solos. À la semaine prochaine.